Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression pluriel.
Expression pluriel.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Exmelin et je suis la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, qui prône justement l'égalité femmes-hommes à longueur d'année. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes au lycée Astier qui a accepté de nous recevoir pour la journée internationale des droits des femmes. Sur un fil rouge, nous avons les femmes, notamment dans l'histoire. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on se dit qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, ne jamais oublier tous les acquis et toutes les luttes pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc il y a 4 ateliers qui sont organisés pour des petits groupes d'élèves. Donc le premier atelier, c'est Femmes et Sport, un défi pour l'égalité, où il y a un jeu de cartes où il faut deviner quand est-ce que les femmes ont été acceptées, par exemple aux Jeux Olympiques, etc. etc. Femmes et Sciences, un génie inspirante, là aussi, on le sait, mais c'est pas souvent dans les livres d'histoire ou dans les livres de sciences. Beaucoup de femmes ont pu contribuer à toute l'évolution, que ce soit en termes de médecine, de sciences au sens le plus large. Et là aussi, donc, on a voulu les mettre aussi en avant, même si leur nom est souvent inconnu, même pour nous. Voilà. Après, nous avons Femmes et politiques, d'opprimés à culotter, le petit clin d'œil, hein, où là, justement, on est encore en train de pointer du doigt, malgré toutes les politiques égalitaires mises en place, la place des femmes au sein des politiques, en termes d'égalité de représentation, au sein de quelle instance de représentation, etc. etc. Et tout ça, depuis pas très longtemps, hein, si on s'inspire du droit de vote en 1945. Voilà. Donc on peut déjà se dire que c'est quelques progrès, et que ces progrès-là, il faut s'y accrocher et continuer dans ce sens. Un quatrième atelier, Femmes et Culture, de la censure à la visibilité, là aussi. Dans toute manifestation culturelle, les œuvres d'art par exemple, les peintures, on ne parle pas souvent des femmes, on parle plutôt d'un Monet, d'un De Vinci, etc. Alors que des femmes, on parle de plus en plus par exemple de Frida Kahlo, mais il n'y a pas que Frida Kahlo, des femmes ont effectivement contribué énormément à la culture. Voilà, donc on fait tourner ces petits groupes sous forme un peu interactive, de réflexion pour les élèves, pour un peu les sensibiliser au fait que même si là tout à l'heure on rigolait parce que quand ils ont entendu que je ne sais quoi était arrivé en 91 et que l'animatrice dit vous voyez ça fait pas longtemps, ils ont explosé de rire parce qu'ils sont de 2008. Mais ça ne fait pas effectivement très longtemps que certains droits ont pu être acquis. Donc on essaie de repositionner par rapport aux barres générationnelles que effectivement c'est maman qui a connu ça et c'est pas l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Voilà.
Pourquoi vous avez eu peut-être le besoin ou pourquoi vous avez organisé cet événement dans un lycée et pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il y avait un besoin ? Est-ce qu'il y avait une demande ? Est-ce que ça vous a paru évident de le faire ?
Parce que déjà, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, c'est vrai que le 8 mars, pour nous, c'est tous les jours. Donc, du coup, on s'est octroyé ce droit. Et ensuite, parce que la génération d'aujourd'hui, c'est la génération de demain, c'est l'avenir. Donc, si on est déjà sur, une notion d'égalité, bah, peut-être qu'il y aura moins de violence, moins de prise de pouvoir, et puis surtout une prise de conscience qu'on est encore dans une société fortement patriarcale et qu'il faut se méfier parce que les reculés vont plus vite que les avancés, parfois.
Bonjour, nous représentons le CIO, le Centre d'information et d'orientation d'Aubenas. Nous sommes des psychologues de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous proposons aux élèves un petit quiz sur l'évolution des femmes et des hommes au sein des formations et des métiers. Voilà. Et donc les élèves peuvent répondre à quelques questions et on donne des réponses concernant les évolutions.
Quel genre de questions vous avez mis dans le quiz pour qu'on sache un peu les thèmes que vous abordez ?
Bah, par exemple, sur le choix de l'orientation, est-ce que les filles et les garçons font les mêmes choix d'orientation ? Le pourcentage de filles en médecine, par exemple, ou la place du travail en France auprès des femmes ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans quel pays l'égalité salariale a-t-elle été rendue obligatoire, par exemple, face à ce genre de questions ?
Bonjour, je suis Vanessa Marchi, je suis juriste à France Victimes Ardèche. Donc mon travail, celui de mes collègues également, parce qu'on est trois juristes sur le département, c'est d'intervenir auprès des victimes d'infractions pénales tout au long du parcours judiciaire, donc de la commission des faits jusqu'à l'indemnisation. Donc l'idée, c'est d'informer les personnes victimes de leurs droits et de leur apporter une aide tout au long de ce parcours, un soutien, donc sur le volet juridique, hein, répondre aux questions qui pourraient survenir suite à l'infraction dont elles ont été victimes, et on peut également les orienter dans les cas les plus complexes vers du soutien psychologique. Alors, nous, on intervient auprès de toutes victimes d'infractions pénales, hein. Pas uniquement les violences, mais en l'occurrence, les violences font partie des infractions pour lesquelles nous intervenons, et il faut le reconnaître, en grande majorité. Donc après, ça va être tout type de violence, justement, à l'image. Donc il y a beaucoup, évidemment, de violences intrafamiliales, mais pas que, hein. Toute personne qui soit effectivement donc, au sein de la famille en majorité, mais les personnes qui pourraient être victimes de violences dans la rue, sur leur lieu de travail, donc à l'école, quel que soit le contexte. Du coup, nous, on est généraliste, donc pour toute personne victime de violence.
Ben moi je sais que quand du coup j'ai porté plainte, j'étais dans une salle avec un truc. Je voulais pas qu'il y ait ma maman, parce qu'en fait quand j'ai porté plainte, ma maman, je voulais pas trop qu'elle soit au courant, parce que c'est pas qu'elle est dans le jugement, mais elle va très vite penser des trucs mal, vous voyez. Et du coup, ben, j'ai préféré dire à ma maman, je préfère porter plainte et le dire à quelqu'un, dans un policier, que je sais qu'il sera là, que de me faire engueuler par ma maman. Voilà.
T'as eu raison, ça fait partie du droit des mineurs. Le droit des mineurs, c'est il peut être accompagné par un adulte de son choix, par son représentant légal. Mais ça, il peut. C'est pas il doit. C'est-à-dire, si le mineur, lui, préfère être entendu tout seul, il a le droit d'être seul dans une pièce. Nous, quand on entend des petits, même à partir de 4 ans, des fois, les petits, ils sont seuls avec nous dans la pièce. Parce que bah ils sont aptes à parler avec nous à ce moment-là.
Moi du coup quand j'ai porté plainte après du coup ils étaient obligés de montrer ce que j'ai dit à ma maman pour résumer un petit peu, mais en fait je pense que s'il n'y aurait pas eu ma maman j'y serais plutôt allée avec peut-être ma cousine parce qu'elle a 20 ans donc en gros elle est plus proche de moi que je préfère dire des choses à des gens qui sont plus proches de mon âge que ma maman vous voyez. Du coup après là je l'ai dit à ma maman parce que du coup c'était le collège qui ont appelé ma maman. Parce que déjà, moi, de base, j'étais pas pour que le collège appelle ma maman. Je préférais le garder moi-même et ne jamais rien dire. Parce que du coup, après, la personne du coup, me menaçait de venir avec des couteaux pour me planter et tout. Du coup, c'est le collège qui m'a dit « Non, vaut mieux vraiment prévenir la police, que tu te fasses emmerder ou que tu te fasses poignarder et tout. » Vous voyez ? Du coup, bah, après, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais sinon, moi, je pense que j'aurais rien dit. J'aurais eu trop peur.
En fait, le collège, ils ont l'obligation, ils ont connaissance d'une infraction sur un collégien, un mineur en tout cas, de faire ce qu'on appelle un signalement. Et après, bah, c'est le procureur de la République qui décide est-ce qu'il y aura une enquête, etc. Et donc c'est pour ça que tu as été entendu. C'était comment ton audition ? C'était dans une salle normale ou c'était avec un ordinateur, etc. ou c'était quelque chose de filmé ?
Non, c'est monsieur, il me posait des questions, il écrivait sur son ordinateur.
D'accord. Donc, nos auditions, elles sont un peu différentes parce que sur la thématique dont on parle en général, c'est filmé. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui est filmé et avec la présence de la personne au choix du mineur.
Et par exemple, si on n'a jamais osé porter plainte parce qu'on a peur de prendre la parole ou quoi devant une personne, c'est possible ou pas d'écrire une lettre ? et ouais. de la faire passer.
En fait, c'est tout à fait possible. Donc la lettre, après, bah, ou tu l'envoies directement à un commissariat, une gendarmerie, ou au procureur de la République, ou à tes parents, en fonction de la personne que tu veux qui soit destinataire de cette lettre. Et nous, après, si on doit faire une audition, si ça concerne des faits de nature sexuelle, hein, je reste dans le domaine de mon travail, bah, elle va servir de base, cette lettre. Il faudra quand même qu'on reçoive la personne en entretien, qu'on discute avec elle, mais elle va servir de base. Si la personne, au début, n'est pas à l'aise pour parler, bah, on va revenir, bah, voilà, tiens, dans ta lettre, tu as marqué telle chose, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça, et puis on ira petit à petit. On n'arrive pas en audition en disant bah, bonjour, aujourd'hui t'es ici pour ça, on va parler de ce sujet. Non, non. On apprend d'abord à connaître la personne qui est en face de nous, pour briser un peu la glace. Et après, on arrive petit à petit sur les faits bah, qui nous amènent à une audition judiciaire.
Après, il faut savoir que pour une audition de mineur, tu as possibilité d'être seul avec le gendarme. Donc en fait, il n'y a que vous deux dans la pièce. Donc pour parler, c'est plus facile de parler quand tu es deux que quand il y a plusieurs personnes autour de toi, ça c'est clair.
Est-ce que si par exemple, un jour, je décide de porter plainte avec ma cousine, et que c'est quelque chose qui devient de plus en plus grave, du coup les parents seront obligatoirement au courant ou pas forcément?
Alors tant que t'es mineur, ça reste quand même tes responsables légaux. Donc le dépôt de plainte, ça va leur revenir à eux. Sauf si c'est eux qui sont mis en cause dans cette procédure-là, ou alors s'il y a un manquement dans le fait qu'ils puissent pas t'accompagner. Des fois on a des parents qu'on appelle entre guillemets défaillants. Là c'est une autre personne qui prend la place des parents entre guillemets pour les poursuites judiciaires, pour accompagner le mineur. Mais à un moment donné, ils seront forcément au courant. Pas forcément de l'intégralité de ce que tu vas dire. Nous, quand on entend un mineur, les parents viennent pas signer après l'audition, entre guillemets. On leur explique dans les grandes lignes ce qui a été dit. Mais il y a aussi un lien de confiance entre le mineur et le gendarme qui va le recevoir. S'il y a des choses qui relèvent de la vie privée dont on a eu besoin d'aborder pendant l'entretien, on n'a pas forcément besoin d'en parler aux parents.
Par exemple, si c'est une affaire qui concerne la famille et tout, que par exemple, on a des problèmes avec ses parents, mais que bah, du coup, on peut en parler à personne d'autre, on va dire. C'est possible ou pas de... J'ai entendu parler d'être majeur à 16 ans.
Enfin... Ce que tu me parles, ça s'appelle l'émancipation. Donc ça, c'est une procédure très particulière qui est mise en place par le juge des enfants. Et même s'il se passe des choses dans la famille, il y a toujours moyen d'en parler. Pas forcément sur le côté judiciaire, ça c'est une chose. Mais il faut en parler sur d'autres choses. Il y a par exemple le numéro 119 d'enfants en danger qui sont là justement pour écouter les enfants. Ça se passe mal notamment par exemple dans la famille. Et eux après lancent les démarches. Et après, l'audition sera faite bah, par un gendarme ou un policier. Si c'est les parents qui sont mis en cause dans cette procédure, ce n'est pas les parents qui accompagneront l'enfant. Il y aura ce qu'on appelle un administrateur, une personne qui est désignée par le procureur de la République pour accompagner le mineur dans toutes ses démarches. L'assister auprès d'un avocat, l'assister pendant l'audition, l'emmener faire un examen médical, si on veut voir un psychologue, si on veut voir un psychologue. Voilà, il se substitue au rôle des parents dans le cadre de cette procédure-là. Mais il faut toujours en parler, j'ai envie de dire. Il ne faut pas rester en se disant « je vais attendre d'avoir 18 ans parce qu'avant c'est trop difficile ». Parce que plus ça attend, plus bah, c'est compliqué aussi pour la personne qui est victime. Et il existe des numéros et des associations, il y en a plein ici d'ailleurs, pour aider les jeunes dans ce cas-là.
Alors, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'associations pour aider. Donc souvent, tu peux même parler dans l'anonymat pour certaines associations, voire même la plupart. Donc il ne faut pas hésiter à leur en parler, déjà aider à ce niveau-là. Et puis ensuite, pourquoi pas, ouais, entamer une procédure judiciaire.
Ouais. Ouais, est-ce que ça répond à vos questions?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse des coordonnées si vous avez besoin de poser d'autres questions ou pour des renseignements? Ouais. Alors moi je suis l'adjudant Alexandre Riz et je travaille à la Maison de Protection des Familles de l'Ardèche. Donc on a été créé en 2021 suite au Grenelle des violences faites aux femmes. Et on a une spécialité, c'est qu'on travaille avec les mineurs. Donc notamment tout ce qui est la protection, la prévention auprès des mineurs. Deux principales missions, la première c'est les auditions de mineurs victimes. Donc à partir de 3 ans jusqu'à 18 ans quand ils ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, parfois de maltraitance. Et la deuxième mission c'est faire de la prévention au milieu scolaire. Donc on va intervenir auprès des collégiens plutôt sur le domaine cyberharcèlement, harcèlement, discrimination, addiction. Et sur les lycéens, on sera plus sur les violences dans le couple, le consentement, l'égalité filles-garçons et parfois aussi les addictions. Voilà en gros nos deux missions principales.
Alors moi je suis là, j'ai dans Fournier-Pierre. Je travaille à la maison de protection des familles de Annonay. Moi j'y suis là depuis le 1er juillet. Donc voilà, je n'en ai rien de plus à ajouter par rapport aux missions. Hein. Je pense qu'il a tout dit.
J'adore la radio.
Ah, voilà.
Alors nous, on représente l'association hospitalière Sainte-Marie, l'hôpital psychiatrique, le seul en Ardèche. Donc on est venu une infirmière et une psychologue d'un centre médico-psychologique. On est, nous, sur le secteur sud-Ardèche et on est venu parler un petit peu prévention et essayer de réfléchir avec les jeunes sur les questions de différence hommes-femmes dans les questions de santé mentale.
Alors, qu'est-ce que ça implique, la santé mentale? Ça va d'où à où? Et en quoi ça peut toucher plus les femmes ou pas? Ou est-ce que c'est...
Ah oui, grande question. Bah, la santé mentale, ça concerne tout le monde, à des degrés plus ou moins graves. Hein. Donc nous, on est venus avec un petit saladier pour soutenir un petit peu les questions et les discussions. Mais on va autant parler de troubles psychiatriques qui peuvent être différents. Les femmes vont plus souffrir de dépression. Il y a d'autres pathologies qui vont concerner un petit peu plus les hommes. Je vois paranoïa. On va parler addiction. Au niveau des addictions, ben, y a des différences selon le genre. Les femmes, elles vont avoir un peu plus de troubles du comportement alimentaire, par exemple. Et puis, ben, les hommes, encore à l'heure actuelle, on va les retrouver plus dans des difficultés au niveau de l'alcool ou du cannabis, en termes de statistiques. Voilà. La question des violences. Les violences faites aux femmes, aux enfants, elles ne sont pas les mêmes, hein, selon le sexe. Donc, ça va créer aussi des différences. Nous, on va les retrouver sur la question de la dépression, du stress post-traumatique. Voilà, ça va. Les questions de genre, elles vont impacter aussi les questions de santé. Alors nous, notre travail, c'est plutôt la santé mentale, le soin psychique, mais c'est vrai aussi pour les soins somatiques. Hein. C'est pas notre domaine.
Bonjour, je représente l'ADI. L'ADI, c'est une association qui finance et accompagne les projets en création d'entreprise. Je suis présente sur Aubenas, plus précisément à la pépinière d'entreprise, où j'ai mes locaux, et on a de nombreuses permanences sur tout le sud Ardèche, qui nous permet aussi d'aller en proximité des gens qui ont des problèmes de mobilité. L'objectif de l'association est double. Le premier, c'est d'accompagner à la création et aussi au démarrage de l'activité pour que les gens soient moins isolés et de leur trouver aussi de nombreuses solutions au niveau des informations et de l'orientation au niveau des autres partenaires sur le territoire et aussi de leur trouver des solutions financières pour qu'ils démarrent dans de bonnes conditions et d'avoir un capital qui leur permette effectivement de pouvoir vivre dès le début de leur activité. Pour le financement, notre outil principal, ça va être le microcrédit. Le microcrédit, c'est une petite somme d'argent sur une petite durée. Et l'objectif étant de pouvoir leur trouver des produits financiers en fonction de leur situation aussi, s'ils sont par exemple aux minima sociaux, si par exemple ils ont des projets en transition écologique, on peut aller chercher d'autres fonds. En tout cas, l'objectif étant de leur faire un montage financier le plus favorable par rapport à leur situation.
On est aujourd'hui au carrefour de l'égalité à Astier. Est-ce que une femme qui a envie de se lancer, est-ce qu'elle a les mêmes chances qu'un homme ou pas ?
Alors, moi je vais parler de mon expérience en Ardèche. Hein. Aujourd'hui, j'ai à peu près 49% de femmes qui sont financées et 51% d'hommes. Donc je suis presque en égalité parfaite sur le financement. Ce qui n'empêche que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même une évolution favorable hein, sur la création d'entreprises et les femmes aussi qui se lancent dans ce défi-là, hein, d'être plus autonomes et plus indépendantes. Maintenant, il y a quand même des freins. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes qui viennent nous voir ont souvent plus de freins que les hommes à la création, à se lancer toutes seules. Souvent dû classiquement à la charge familiale, hein, mais aussi, ça peut faire partie aussi d'une motivation, c'est-à-dire que la création d'entreprise ou la création d'une petite activité complémentaire peut leur permettre d'avoir plus de flexibilité par rapport aussi à leur vie personnelle. Donc ça peut être aussi une solution qui peut répondre à des besoins des femmes au jour d'aujourd'hui. Après, sur le financement, nous, on est sur quand même un public qui n'est pas bancarisable, donc dont les banques ne veulent pas sur le financement. Donc forcément, c'est souvent quand même le cas pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles ont plus de difficultés à avoir des emprunts bancaires classiques. Donc forcément, ça reste quand même un public cible pour notre association. Donc c'est pour ça qu'on en finance aussi presque en parité parfaite, quoi.
Alors, l'association Amnesty International existe depuis 60 ans. C'est une association de défense des droits humains. Elle repose essentiellement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où des gens s'étaient réunis pour que les horreurs des deux guerres ne soient plus renouvelées. Et ce texte n'est pas un texte obligatoire, mais de là découlent tous les pactes relatifs aux droits humains qui ont été signés entre les différents gouvernements et les lois. Et si un gouvernement a signé et ratifié ces lois, à ce moment-là, quand il est coupable de violation des droits humains, on peut intervenir. On intervient en dénonçant ces violations. Il faut dire que ce n'est pas la seule association qui défend les droits humains, mais ce qui est unique dans Amnesty, c'est qu'elle a son propre bureau de renseignement. Il y a des chercheurs partout dans le monde qui, quand ils ont entendu parler d'une violation des droits humains, on enquête, on dénonce et on agit. Alors comment on agit ? On agit en dénonçant, ça veut dire en écrivant des lettres. À la base, c'était ça, hein, l'enseigne d'Amnesty, c'est une bougie pour apporter la lumière entourée d'un barbelé et un crayon, parce qu'on écrivait essentiellement des lettres. Maintenant, on pétitionne beaucoup. On envoie ces pétitions au gouvernement concerné, et même un gouvernement le plus corrompu soit-il n'est pas insensible au fait qu'il sache qu'il commet des violations des droits humains. De temps en temps, ça marche. Amnesty fait aussi partie de collectifs. Par exemple, il a été à l'initiative de la création de la Cour pénale internationale de la Haye ou d'organismes comme ça. On peut influencer aussi sur des lois telles la loi de l'immigration. On peut aussi intervenir pour des cas comme pour défendre l'avortement en Pologne ou aux États-Unis. Le premier combat, c'était contre la peine de mort et on écrit beaucoup pour ça. Et heureusement, il y a de plus en plus de pays abolitionnistes. Voilà.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes présente pour ce carrefour de l'égalité. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici ?
Parce que le travail de base de militants, c'est non seulement faire ce que nous demande Amnesty, ça veut dire d'intervenir en pétitionnant, mais aussi de faire connaître partout le plus possible les violations des droits humains et de faire connaître le travail, le combat d'Amnesty. Et les jeunes, ils sont tout à fait sensibles et ils adhèrent tout à fait à ces valeurs.
Quel message vous leur faites passer quand vous les rencontrez, que vous discutez avec eux ?
En fait, le message qu'il faut quand même qu'ils soient vigilants, parce que dans un monde où il y a de plus en plus justement de violations des droits humains, ils doivent vraiment prendre en compte ça et essayer de résister. Voilà.
Moi, je trouve ça intéressant parce qu'ils nous aident et on sait que ce sont toujours des personnes qui auront du soutien pour nous et qui nous aideront dans la vie quotidienne. Et que du coup, ils ont su répondre à nos questions et que du coup, on a un point de vue maintenant sur les choses du coup, qu'on voit et qu'ils nous disent.
Et quel stand vous êtes allé voir ?
La gendarmerie, ça a été le plus intéressant, je pense, parce qu'ils ont su répondre à beaucoup, beaucoup de questions sur plusieurs sujets. Et du coup, ça nous a beaucoup aidés et ça a changé notre point de vue.
Moi, j'ai bien aimé. Parce que du coup, ça m'aide. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc du coup, ça m'aide à avoir un point de vue sur toutes les choses que j'ai vues. Et du coup, je sais que je pourrais me fixer maintenant, parce qu'il y a des choses que je me trompais, du coup, et que j'ai vues, donc maintenant, je sais ce que c'est.
Tu sais vers qui te tourner pour avoir des réponses et avoir les bonnes démarches ?
Oui. Je sais que, du coup, la police, elle sera là, que je peux contacter France Victime à Privat, etc. À Privat, donc je sais que j'aurai beaucoup de gens pour m'aider, donc ça va.
Ok. En quoi c'est important ? Pourquoi vous avez voulu être présente aujourd'hui pour ce carrefour de l'égalité ?
Parce que je suis une femme et que je participe à beaucoup d'événements, en tout cas avec le CIDFF. Et puis ça me permet aussi de promouvoir l'émancipation féminine à travers la création d'entreprises. Et c'est important, c'est-à-dire que les femmes ont toute leur place dans la création d'entreprises. Elles ont des idées, elles ont aussi beaucoup d'envie. Donc je pense que c'est important qu'elles sachent que la création d'entreprises peut leur permettre aussi de gagner en indépendance et en autonomie. Et aussi pouvoir allier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Et aux jeunes filles, femmes qui sont lycéennes ici, quel message vous aimeriez leur faire passer ?
Que quand on est jeune, tout est possible et que la création d'entreprise, ça fait partie aussi d'un possible pour elles. Et puis que ça peut leur permettre aussi d'avoir une liberté d'activité et de pensée qui est importante.
En quoi c'est important pour vous d'être présente pour ce carrefour de l'égalité ?
D'informer, de prévenir, je pense que c'est le moyen pour que les choses évoluent et changent. Alors ça peut être juste un petit grain de sable, mais petit à petit comme ça, d'informer, ça peut permettre un changement.
plus les jeunes repéreront les difficultés ou les stéréotypes aussi qui peuvent être liés à la psychiatrie, à la santé mentale, plus ils seront en capacité pour eux-mêmes ou pour un proche de demander de l'aide. Donc oui, ça nous semblait important d'être là aujourd'hui.
Parce que les femmes en gendarmerie, c'est un peu méconnu. Je veux dire, les gens pensent que c'est un métier exclusivement d'hommes, alors que non. Enfin, il y a de plus en plus de femmes en gendarmerie, qui apportent beaucoup d'ailleurs à l'institution. Parce qu'on le voit, nous, sur des interventions, des fois, les femmes en gendarmerie ont plus de facilité à discuter avec certaines personnes. Donc je trouve ça important, et puis je trouve que c'est important également d'en parler.
Mais de manière générale, oui, on a quand même des profils féminins qui vont apaiser, mais ça peut être aussi des hommes qui vont apaiser, à l'inverse des femmes qui vont... Voilà, c'est... Je dirais pas faire de généralité en ce sens-là, mais dire ça apaise certains tempéraments de collègues qui seraient un peu plus vifs. Alors peut-être avoir tendance à les faire rabaisser un petit peu.
Alors nous, on a un partenaire du CIDFF, on travaille beaucoup avec le CIDFF et de manière générale, c'est important effectivement de pouvoir parler de ce que c'est l'aide aux victimes et d'être aussi repéré parce qu'effectivement, toute personne peut être victime au cours de sa vie et c'est quand même important de savoir qu'il existe une association qui intervient donc en soutien des personnes qui ont besoin d'aide dans une situation où elles sont bien souvent fragilisées.
Les gens qui viennent vous voir, c'est quelle tranche d'âge en général ? C'est plutôt des jeunes, des vieux, où il y a un peu tout le monde ?
On a vraiment toute tranche d'âge. Nous, on est association d'aide aux victimes généralistes. Alors, je dirais qu'en majorité, on va être sur 25-45. Mais on va avoir effectivement un public mineur hein, pour des questions de violence, de violence sexuelle. On a beaucoup de mineurs. On a également des personnes, du coup, qui sont plus âgées. Bon, par exemple, je ne sais pas, moi, les personnes âgées qui vont être victimes d'escroqueries, même si on ne peut pas non plus réduire les escroqueries aux personnes âgées. Hein. Les escroqueries sont malheureusement très bien faites aujourd'hui et toute personne peut être amenée à être victime. Mais on s'adresse vraiment à toute personne, vraiment victime, quelle que soit l'infraction, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, on est là pour toute personne.
C'est toujours intéressant de faire réfléchir les élèves sur justement la différence qui existe entre les filles et les garçons, et ils s'en rendent pas toujours compte d'ailleurs qu'il y a une différence en termes de choix. En fait, les choix sont très genrés et ils ne le savent pas forcément. Donc ce petit moment, ça permet justement de se poser des questions. Voilà.
Expression plurielle. Une action soutenue par la préfecture politique de la ville, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas, et la caisse d'allocation familiale.